Bien, bonjour tout le monde, excusez-moi. Donc merci, merci Patrick pour cette invitation. Je suis ravi de découvrir votre région. Je dois avouer que j'ai traversé très rapidement cette région, mais je m'étais jamais arrêté. Et j'étais faire un espèce de petit pèlerinage, en tout cas, ou forme de pèlerinage ce matin avec Patrick au Chambon-sur-Lignon, mais ce plateau est très cher à mon cœur, puisque j'ai des amis qui, dans des périodes difficiles, ont passé plusieurs mois ou années sur le plateau. Je vais essayer, je vous demande une seconde, je vais essayer de régler un petit problème technique pour avoir les diapos. Voilà. Bien. Donc, je vais vous parler pendant à peu près une heure de prévention et de stratégie pour la prévention. Le titre est « Vaut-il mieux prévenir que guérir ?» On verra que il n'y a pas de réponse très très simple, même si intuitivement on pense que il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Je laisserai ces diapositives à Patrick s'il le souhaite, donc vous pouvez les utiliser ou les revoir si vous avez envie. Vous avez mon adresse mail ici et je suis bien entendu tout à fait prêt à dialoguer avec vous sur les sujets dont je vais parler. Et j'ai indiqué quelques références bibliographiques. En particulier, vous pouvez très facilement trouver sur Internet des rapports du Conseil économique, social et environnemental. Un rapport très très récent sur les enjeux de la prévention et un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales qui date de 2003 sur la politique de prévention durable. Les deux références suivantes sont des références un peu de base, en particulier le livre de Rose. Malheureusement, enfin ça c'est un article, mais il a publié un livre que vous pouvez trouver sur Amazon. Enfin, je ne fais aucune publicité, mais malheureusement ça n'existe qu'en anglais. Et la dernière référence est un livre de un sociologue et un économiste, Patrick Peretti-Vatel et Jean-Pierre Moati, qui est publié en français, qui est aussi facile à se procurer et qui est un ouvrage extrêmement moderne, disons, et à jour sur les problèmes de prévention. Si ce que je vous dis n'est pas clair, vous pouvez m'interrompre si vous le souhaitez, mais on aura de toute façon après tout le temps pour discuter. Alors, je vais commencer par quelques généralités sur la santé et la prévention, parce que je pense que vos connaissances dans le domaine sont très très hétérogènes. Donc je vais me situer à un niveau très 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 général pour ensuite aller vers des choses un tout petit peu plus pointues et plus sophistiquées. Alors ce dont on va parler, c'est de la santé, et je vous ai indiqué ici la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé. La santé qui est définie comme donc un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas seulement comme l'absence de maladie ou d'infirmité. Alors c'est important de considérer ça d'emblée parce que effectivement la santé c'est pas seulement ne pas être malade, mais on a l'habitude de dire que la santé c'est la bonne santé. Quand on se rencontre, on dit bonjour, ça va, comment ça va? Si on ne demande pas aux gens est-ce que vous avez une maladie, mais comment ça va, ça veut dire aussi comment on se sent. Donc c'est bien cette notion de bien-être. Alors bien-être physique, ça va de soi, je veux dire si on a une jambe qui ne fonctionne pas, quelque chose, ça va pas. Si, mental, voilà, comment va le moral, comment va la santé, c'est bien comment va le moral, mais aussi social, c'est-à-dire être bien soi-même et être bien dans le corps social. Et c'est tout ça qui constitue la santé et qui constitue ce complet état de bien-être. Je vous rassure tout de suite, ce complet état de bien-être, on ne sait pas le mesurer, bien entendu. C'est quelque chose de très compliqué, de très labile. Ça peut aller le matin, et puis dans la journée, on a eu des ennuis, et le soir, ça va pas. Ou on a mal dormi, et le matin, ça va pas, et le soir, ça va mieux, parce qu'on a eu, on a gagné à la loterie ou au loto. Mais voilà, c'est ce vers quoi on tend. Donc, ce complet état de bien-être, c'est un objectif qu'on essaye d'atteindre individuellement, mais qui est aussi un bien collectif. Ça nous appartient en propre, bien entendu, mais notre société, qui est composée de la somme des individus que nous sommes et des interactions entre ces individus, ne peut bien fonctionner que si les individus sont eux-mêmes en bonne santé. Donc la santé est quelque chose d'individuel, mais c'est bien entendu un bien collectif. Et puis la façon dont je me porte, ne serait-ce que sur le plan social ou sur le plan mental, dépend aussi de la façon dont va la société. On sait très bien qu'on est dans une période de crise dure actuellement, depuis plusieurs années. Et par exemple, les premières dégradations de la santé qu'on observe concernent la santé mentale. Le premier effet des crises est en particulier d'augmenter le nombre de suicides. Et comme moi, vous lisez dans les journaux, on voit à la télé tout ce qui se passe sur l'augmentation de suicides dans des entreprises dans lesquelles les conditions de travail sont rendues difficiles par l'environnement économique et par l'environnement dans lequel on vit. Donc cette santé, qui est un bien individuel mais qui est aussi un bien collectif, l'est au même titre que l'éducation et la sécurité ou d'autres grands domaines. Et on a l'habitude donc de parler de santé publique en opposition à la santé individuelle. Donc cette santé publique, ben c'est certainement une question et un sujet politique, médical et biologique. J'ai un peu de mal parce que je vois pas le rouge, mais enfin c'est sûrement un sujet médical et biologique, mais c'est aussi un sujet politique et économique, et c'est autant un sujet politique et économique qu'un sujet médical et biologique. C'est ce qui rend ce problème de la santé, de la préservation de la santé, de la prévention de la santé compliqué, parce que il faut s'intéresser à des considérations biologiques et médicales, mais aussi à des considérations sociales et politiques. Ce problème est compliqué, donc il est intéressant, donc il est important, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Si on considère l'état de santé, et je dis état de santé soit individuel, soit collectif, je le fais exprès, puis on reviendra là-dessus après. De quoi dépend l'état de santé? Alors, l'état de santé, et notre état de santé, il dépend d'abord de caractéristiques qui nous sont propres, des caractéristiques biologiques ou physiologiques, le fait qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit gros, qu'on soit maigre, qu'on ait hérité de nos parents, de nos ancêtres, des caractéristiques génétiques favorables ou pas favorables, ou de déficiences qui sont transmises. Il dépend de notre âge, bien entendu. La santé a malheureusement tendance à se dégrader avec l'âge. Il dépend de notre sexe. Les problèmes de santé des hommes et des femmes sont bien, bien différents. Ils ont bien des choses en commun, mais ils sont aussi bien différents. Il dépend des soins que nous recevons. Donc cet état de santé dépend de caractéristiques propres à l'individu. Mais au-delà des caractéristiques propres à l'individu, notre état de santé dépend de caractéristiques qui sont liées à notre style, à nos styles de vie, à nos comportements. Est-ce que je fume, je fume pas? Est-ce que je bois de l'alcool, je bois pas de l'alcool? J'ai des comportements violents, des comportements à risque. Est-ce que ce que je mange est une nourriture bien adaptée ou mal adaptée? Je n'ose pas dire de bonne qualité ou pas de bonne qualité. Mais notre état de santé, il dépend aussi de caractéristiques qui sont plus éloignées de l'individu. Les conditions de travail, le niveau d'études, l'environnement, l'eau, l'hygiène, l'habitat, le chômage, les réseaux sociaux, les relations sociales, si les personnes qui sont isolées se sentent peut-être moins bien, ou peut-être mieux pour certaines d'ailleurs, que les personnes qui vivent dans un environnement social ou familial très, très, très développé. Et puis, in fine, cet état de santé, il dépend de conditions environnementales très générales. Ce qu'il y a dans l'air que je respire, ce qu'il y a dans l'environnement physique, chimique, culturel, économique autour de moi. Donc vous voyez que cet état de santé, finalement, au niveau de l'individu, est la résultante de déterminants ou de facteurs extrêmement nombreux, complexes, qui interagissent les uns avec les autres. Et si on veut préserver l'état de santé, si on veut développer des politiques de prévention, ben, il va falloir s'intéresser à tous ces niveaux en même temps. Heureusement, tous ces niveaux sont liés les uns avec les autres. Et on peut imaginer que si on bouge quelque chose à un niveau, ça va avoir des conséquences à d'autres niveaux, mais ça va bouger dans tous les sens et on a du mal à savoir comment. Alors, si on essaye de faire de la prévention, donc pour préserver cet état de santé, de quoi parle-t-on exactement? Donc la prévention a une définition de l'Organisation mondiale de la santé qui est ici. C'est l'ensemble des actions qui tendent à promouvoir la santé à l'échelon, excusez-moi, il y a une faute de frappe, donc c'est promouvoir la santé à l'échelon individuel et collectif, pour promouvoir la santé individuelle et collective. Ça, c'est déjà très important de bien considérer que la santé, comme je vous l'ai dit d'emblée, ça ne concerne pas que moi, nous concerne aussi, ça concerne que moi et j'ai que vous, chacun d'entre nous, bien entendu, mais ça nous concerne aussi tous collectivement, et que si on veut préserver la santé, il ne suffit pas que chacun d'entre nous ait par exemple des comportements sains par rapport à la santé. Il faut qu'on le fasse tous ensemble. Un exemple qui est évident et que tout le monde connaît, quand je conduis, je respecte strictement le code de la route, je dépasse pas les limitations de vitesse, je ne franchis pas la ligne jaune, je laisse passer les piétons ça sert à peu près à rien si je suis entouré de personnes qui ne le font pas et qui roulent à gauche et qui dépassent les limitations de vitesse et qui s'arrêtent pas au stop. Donc ma santé, ma sécurité ne peuvent être préservées que si chacun d'entre nous et tous en même temps nous observons un certain nombre de comportements et de règles qui sont plus que du respect, qui sont des règles de préservation de la santé collective. Donc cette prévention, elle repose sur une application des individus, bien entendu, une vigilance des professionnels de santé, parce que les professionnels de santé sont quand même, dans toutes les professions de nos sociétés, celles qui ont le plus à voir avec la santé, et puis une notion de responsabilité collective. Et c'est vraiment très très important, et c'est ça mon message principal, j'insiste beaucoup, sur le fait que préserver la santé, c'est quelque chose d'individuel et c'est quelque chose de collectif. Alors, quand on s'intéresse à la prévention, je m'excuse, je vais vous donner quelques définitions comme ça, mais pour bien fixer le cadre dans lequel on peut raisonner, on peut travailler, pour des raisons pratiques, tout simplement, distinguer trois niveaux d'action de prévention. Ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est toutes les actions qui ont pour but d'éviter l'apparition de la maladie en agissant sur ses causes en amont, c'est-à-dire préserver la bonne santé. Des personnes sont en bonne santé et on veut, en évitant qu'ils soient exposés à ce qu'on appelle des facteurs de risque, c'est-à-dire des comportements, des environnements, des éléments, des événements qui risquent d'altérer la santé, en évitant qu'ils soient exposés à ces facteurs de risque, on veut préserver leur santé. Par exemple, faire que des enfants pratique une activité physique et est une nourriture adéquate, une alimentation adéquate pour ne pas être exposé à un risque d'obésité, de la prévention primaire. Faire que des adolescents ne fument pas ou aient des rapports sexuels protégés de façon à pas se contaminer avec des infections sexuellement transmissibles, c'est ce qu'on appelle de la prévention primaire. Un autre exemple de prévention primaire, ce sont les vaccinations. Si on ne veut pas attraper la grippe lors d'une épidémie de grippe ou avoir moins de chances d'attraper la grippe, un moyen relativement efficace, pas à 100%, mais rien n'est jamais efficace à 100%, consiste à se vacciner. Donc on a tous eu des vaccinations qui sont, un certain nombre de vaccinations dans notre pays sont encore obligatoires. Et puis il y a un niveau de prévention dit secondaire qui vise à détecter la maladie à un stade très très précoce. De façon à pouvoir intervenir utilement au tout début de la maladie, éviter que la maladie ne se développe. C'est par exemple ce qu'on appelle les dépistages. Et le dépistage du cancer du sein, par exemple, est dans notre pays l'un des dépistages qui est le plus développé. Mais il existe d'autres dépistages, par exemple le dépistage à la naissance d'un certain nombre d'affections néonatales, qui comme ça peuvent être prises en charge très très précocement, avec l'idée que plus on intervient tôt, et plus on a de chances d'enrayer le développement de la maladie. Mais là non plus, c'est pas absolu, c'est pas parce qu'on intervient tôt que tous les cas de maladie vont arrêter leur développement. Et puis enfin, la prévention tertiaire, qui a pour objectif de diminuer les récidives et les incapacités conséquences à la maladie. Quand on détecte une maladie, par exemple un diabète, la prise en charge de ce diabète correct va permettre d'éviter l'apparition de complications. Et la prévention tertiaire, c'est essentiellement ça. C'est la toutes les actions qui visent à éviter l'apparition de complications du fait de la maladie. Donc c'est les prises en charge, c'est les traitements, c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique des patients, c'est-à-dire apprendre aux personnes à se prendre en charge elles-mêmes quand elles ont un diagnostic de maladie chronique, donc diabète, hypertension artérielle, athérosclérose coronarienne, infection à VIH, voilà des affections pour lesquelles on sait qu'une prise en charge correcte et adéquate va les transformer en affections chroniques avec lesquelles on va pouvoir vivre, avoir une vie normale ou quasiment normale, mais à condition de en permanence utiliser des traitements. On est en train de développer de la prévention tertiaire pour ce qui est de la prévention de la dépendance, en particulier la dépendance liée à l'âge, où on sait que, ou en tout cas on essaye de retarder les effets du vieillissement, en particulier du vieillissement cérébral, la réadaptation, l'intégration, la réinsertion sociale et professionnelle entre toutes dans ce cadre de prévention tertiaire. Donc vous voyez que ce champ de la prévention est un champ extrêmement large et qui comporte finalement tous les stades de la maladie. Alors comment on fait la prévention? Alors c'est ce que j'appelle les véhicules de la prévention ou les moyens de la prévention. Le moyen que tout le monde connaît et qui est le plus développé pour prévenir l'apparition de la maladie, c'est ce qu'on appelle l'éducation pour la santé. Il existe en France un institut qui s'appelle l'INPES, l'Institut national d'éducation pour la santé. L'éducation pour la santé est basée sur un certain nombre de concepts qui sont résumés ici. D'abord, l'éducation pour la santé comporte toutes les activités d'information et d'éducation qui incitent les gens à vouloir être et rester en bonne santé. Bien entendu, on ne peut rien faire contre la volonté des gens, et vous avez vu que tous les déterminants de la santé sont soit des déterminants qui nous sont propres, qui sont nos caractéristiques biologiques, par exemple, mais vis-à-vis desquels on peut éventuellement avoir des actions de rétablissement, soit sont liés à nos comportements ou à notre environnement ou à notre insertion sociale, qui sont des éléments sur lesquels les personnes doivent agir, encore une fois individuellement et collectivement, mais d'abord il faut qu'elles agissent. Donc il faut le vouloir. Ensuite il faut savoir comment le faire. Donc c'est pour ça que ça porte le nom d'éducation. C'est la volonté et l'acquisition de connaissances qui permettent de faire ce qu'on peut faire individuellement et collectivement pour conserver la santé. Et éventuellement en sollicitant de l'aide de ses voisins, des professions médicales ou de l'aide institutionnelle, en particulier des pouvoirs publics ou de tout autre mode d'organisation publique, collective ou privée. Donc l'éducation pour la santé, c'est vraiment de l'éducation. Donc elle a pour but de fournir à chaque citoyen tout au long de sa vie les compétences et les moyens d'agir pour préserver, promouvoir et préserver sa santé et donc sa qualité de vie, ainsi que la collectivité. Encore une fois, si des citoyens agissent de façon isolée sans qu'il y ait une prise en charge collective de ces actions, ça perdra beaucoup de sens. Alors, sur la prise en charge collective, il y a un autre élément. Il faut bien se rendre compte que tout ça, tous ces concepts, ont été développés en particulier en France et en Grande-Bretagne dans la deuxième moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, dans une perspective qui était, contrairement à ce qu'on pourrait le penser en écoutant mon discours, c'était pas du tout une perspective humanitaire. C'était pas pour le bien des gens qu'on a développé les concepts de prévention. Le premier en France qui a développé le concept de prévention, c'est Napoléon Ier. Napoléon Ier, je ne sais pas s'il avait des qualités et des défauts, mais en tout cas, c'était sûrement pas un grand humaniste. C'était un homme efficace et qui voulait faire des conquêtes. Et il avait besoin de soldats, de fantassins, qui étaient capables de partir de Paris, d'aller à pied jusqu'à Moscou et éventuellement de gagner des batailles. Là, à Moscou, ils l'ont perdu, mais enfin, il y en a d'autres qui l'ont gagné. Donc, il fallait que ces gars-là, ils soient costauds et en bonne santé. Et par exemple, la première action de prévention qui a été, ou l'une des premières actions de prévention qui a été mise en place par Napoléon Ier, c'est quelque chose que vous connaissez tous, qu'on connaît tous, c'est les platanes qu'il y a le long des routes. Alors il en reste de moins en moins parce qu'il y a des maladies des platanes. Mais Napoléon, il a fait planter des platanes le long des routes. Vous savez pourquoi ? C'est pour que les fantassins qui marchent soient à l'ombre quand il y a le soleil tapé. Et vous savez, ces magnifiques routes qu'on voit, petites routes bordées de platanes avec une ombre apaisante quand il fait chaud, et ben c'était pas du tout pour la beauté du paysage, bien entendu, que Napoléon l'a fait, mais c'est pour que les gars, quand ils arrivent au bout, ben, ils soient encore en bonne santé et qu'ils soient capables de, encore une fois, de se gagner des batailles. Ensuite, est survenue la révolution industrielle, et si on a développé la prévention, ben c'est pour avoir des gens qui soient capables de travailler, qui soient en bonne santé, parce que les gens qui sont malades, ils peuvent pas travailler. La première loi de prévention en France, 1849, 1851, enfin au milieu du 19e siècle, juste après la révolution de 48, ben c'est un groupe de députés libéraux, médecins, qui ont interdit le travail de nuit pour les femmes et les enfants de moins de 15 ans. Et c'est pas dans une perspective humanitaire qu'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont bien vu que si on faisait travailler des femmes qui pouvaient être des femmes enceintes ou des petits-enfants, si on les faisait trop travailler, ben on n'avait pas des travailleurs qui se développaient bien et qui pouvaient bien faire marcher les usines. Voilà. Alors, cette prévention, elle s'adresse à l'ensemble de la population. À l'heure actuelle, donc on est dans une perspective qui n'est plus cette perspective libérale, mais on a passé le siècle des Lumières depuis longtemps, et on est dans une perspective humaniste et sociale. Donc il faut permettre à chacun d'accéder à cette prévention, permettre à chaque personne de comprendre l'information, de se l'approprier pour l'utiliser dans sa vie. Il y a d'autres moyens à part l'éducation pour la santé, ça ne résume pas la prévention. Il y a l'information de tout le public, ça c'est pas de l'éducation, les campagnes que vous pouvez voir à la télé, dans les journaux, contre consommation de tabac, d'alcool, pour la prévention routière, des choses comme ça, ben c'est pas de l'éducation, c'est vraiment de l'information. L'utilisation des moyens de communication, sur l'alimentation par exemple, on fait beaucoup de choses en ce moment, les vaccinations, les dépistages, l'éducation thérapeutique, voilà, on a beaucoup d'outils. Je me suis un peu appesanti sur l'éducation pour la santé parce que c'est le plus important, et tout ça est inclus dans à l'heure actuelle dans quelque chose qu'on appelle la promotion de la santé, qui est plus large que la seule éducation pour la santé, qui regroupe tous les outils et qui est l'ensemble du processus qui permet aux populations d'avoir les moyens d'assurer un contrôle sur leur propre santé. Donc ça agit à la fois sur les individus et sur les groupes d'individus, et tout ça a été réuni, si ça vous intéresse, dans une charte de l'Organisation mondiale de la santé, la charte d'Ottawa, simplement parce que c'était une réunion de l'OMS qui se tenait à Ottawa en 86, et c'est assez important parce que ça énonce trois principes. D'abord, la promotion de la santé, ça consiste à donner aux individus et à la collectivité davantage de maîtrise sur leur propre santé et plus de moyens pour l'améliorer. Bon, donc ça, c'est tout ce que je viens de vous dire, et ça reprend tout ce que je viens de vous dire. Deuxièmement, la promotion de la santé ne relève pas que du secteur de la santé. C'est ce qu'on appelle, dans le langage de l'ONU, l'intersectorialité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas seulement en agissant sur la santé ou dans le domaine de la santé, dans le domaine médical, qu'on va préserver la santé, mais c'est aussi en agissant sur la politique agricole et la qualité de la nourriture qu'on produit. C'est en ayant des moyens de transport convenables et sécures. C'est les politiques environnementales. Finalement, tous les secteurs, si on y réfléchit bien, l'éducation, bien entendu. Donc tous les secteurs, si vous regardez tous les départements ministériels, ils ont tous une composante santé. Tous une composante santé, y compris la défense, bien entendu, parce qu'il faut au moins préserver la santé des militaires, mais il faut aussi préserver la santé des populations qui sont sur des champs de bataille, parce que si on détruit tout le monde, la vie ne sera plus possible. Donc cette notion d'intersectorialité est extrêmement importante. Et puis, la Charte d'Ottawa a mis en avant un principe d'équité. On pourrait discuter entre principe d'équité et principe de justice, mais enfin, voilà. C'est permettre à chacun d'avoir accès à des outils de préservation de sa santé selon ses besoins et non pas selon ses moyens. C'est ça le principe d'équité. Ce qui veut dire que développer des stratégies de prévention de la santé nécessite très souvent, et je vais essayer de vous le montrer si j'ai assez de temps, de mettre en œuvre des stratégies inégalitaires. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins, nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Il faut que, quels que soient nos moyens, chacun d'entre nous ait accès aux outils de préservation de sa santé nécessités par ses besoins propres, à son bénéfice propre et au bénéfice de la collectivité. Donc l'équité pour reposer sur une certaine inégalité. Alors à partir de là, la charte de Talloy élabore des actions qui sont possibles, l'élaboration de politiques pour la santé, la création d'environnements favorables, c'est traduit de l'anglais, le renforcement de l'action communautaire, l'acquisition d'aptitudes individuelles, la réorientation des services de santé, et la démédicalisation de la prévention, c'est la conséquence de l'intersectorialité. Les professions médicales sont extrêmement importantes, mais ça ne repose pas que sur les professions médicales et pas que sur les médecins. Je ne sais pas s'il y a des personnes de profession médicale dans la salle, sûrement. Je ne veux pas qu'elles se choquent de ça, mais ça me paraît important. Alors, quels sont les arguments pour développer la prévention ? D'abord, des arguments économiques, puisqu'est-ce qu'il vaut mieux prévenir que guérir ? À l'heure actuelle, on vit dans une société libérale avancée où les lois du marché nous gouvernent, donc les principales premières considérations sont économiques. D'un point de vue économique, on pourrait dire intuitivement que la prévention est une source d'économie. J'ai mis un point d'interrogation parce que on verra que c'est pas évident. Il y a des arguments quand même qui vont un peu en sens inverse. Prévenir, ça ne fait que retarder la survenue d'un événement. Par exemple, si on regarde le risque de survenue du cancer du poumon parmi les personnes qui fument. Je m'excuse, il y a sûrement des personnes qui fument dans la salle, mais moi je suis épidémiologiste et le gagne-pain des épidémiologistes, c'est le tabac et le cancer du poumon. Donc voilà, et puis c'est quand même, il y a 35% de la population qui fume dans notre pays, par exemple, et ça ne diminue pas, et c'est sûr que c'est une source de plaisir, mais c'est aussi une source de pathologie. Si on ne fait que retarder la survenue d'un événement, d'un point de vue économique, c'est pas sûr qu'on y gagne. Alors avec le tabac, peut-être qu'on y gagne parce que l'âge le plus fréquent de survenue du cancer du poumon, c'est entre 60 et 70 ans, aux alentours de 65 ans. Donc ça tombe assez bien parce que quand on fume, donc on achète des cigarettes, quand on achète des cigarettes, on paye 85% de taxes, hein, 15% pour le tabac et 85% d'impôts. Donc ça rapporte de l'argent à la collectivité. Non pas seulement au ministre des Finances, parce qu'en ce moment, c'est mal vu d'être ministre des Finances, mais à la collectivité. On travaille. Et puis, au moment où on part à la retraite, c'est là où on a le plus de chances d'avoir des pathologies qui surviennent. Et à ce moment-là, finalement, la collectivité va économiser de l'argent, puisqu'il n'y a pas de retraite à payer. Donc voilà, c'est une vision un tout petit peu simpliste, mais quand même qui reflète la réalité. Si on fait de la prévention, le but, un des buts, c'est d'augmenter l'espérance de vie. On sait que augmenter l'espérance de vie, c'est coûteux parce qu'il y a une période de nos vies pendant laquelle on est productif et puis il y a une période de vie pendant laquelle on n'est plus productif. Donc, du point de vue des finances globales, c'est pas sûr qu'augmenter l'espérance de vie, ça augmente le bonheur des citoyens et des familles. Mais d'un point de vue strictement économique, c'est pas très, très rentable. Ça a pour but de diminuer le nombre de cas de maladie, mais on sait qu'au moins il y a de cas de maladie et plus les médecins s'évertuent à les explorer de façon approfondie, à mettre en œuvre des thérapeutiques extrêmement chères. Donc c'est pas sûr que ce soit vraiment rentable. Sauf si on arrive à complètement supprimer la maladie. Par exemple, on avait réussi, au niveau mondial, on a supprimé la variole. Donc voilà, grâce à la vaccination, il n'y a plus de variole, il n'y a plus de vaccination antivariolique. Et la variole, c'est fini pour je sais pas combien de temps, mais pour la fin des temps vraisemblablement. On avait réussi la même chose avec la tuberculose, et puis il y a des foyers de tuberculose qui resurgissent dans notre pays, chez des personnes en conditions socio-économiques extrêmement défavorables. Mais si on arrive à supprimer la maladie, là c'est tout bénef, et on a fini avec cette maladie. Et voilà, on va faire des économies on arrive à prévenir des pathologies qui surviennent au moment où les personnes sont actives. Sinon, ça va plutôt coûter de l'argent. Donc l'argument économique est pas très fort. Alors il y a un argument humaniste ou humanitaire. Il vaut mieux être en bonne santé que malade. Mais ça pose quand même des problèmes, et on le sait. Par exemple, notre société, nos sociétés européennes du Nord, en tout cas, mais en Chine, c'est aussi le cas, sont confrontées à un vieillissement de la population, et ce vieillissement de la population pose des problèmes éthiques et sociaux de prise en charge. Et d'accompagnement, c'est un problème éthique absolument considérable. Il faut être bien conscient que la mise en œuvre de politiques de prévention très efficaces contribue à ça. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire. Je suis sûrement une des personnes les plus âgées dans la salle, donc je suis tout à fait conscient de la nécessité individuelle de ces politiques, mais à l'échelon collectif, c'est une gestion extrêmement difficile. D'autre part, faire de la prévention, ça se fait beaucoup en modifiant nos comportements. Or, est-ce que nous avons le droit de modifier nos comportements? Par exemple, dans les sociétés extrêmement libérales comme la société nord-américaine, pendant 50 ans, il y a eu une bataille autour du fait de savoir si il fallait inciter les gens à arrêter de fumer ou à ne pas fumer au nom de la liberté individuelle. Enfin, qu'est-ce qui me permet, moi, de conseiller à d'autres personnes d'avoir tel ou tel comportement? Ça va à l'encontre des notions de liberté individuelle. Et je pense que la seule solution qu'on puisse avoir, c'est d'aller au-delà de la barrière de comportement individuel pour raisonner collectivement et en savoir ce que nous permettons comme prise de risque collectivement et ce qui est compatible avec notre développement collectif. Donc, la prévention, c'est le résultat d'interactions fortes entre la société et les individus. Et pour sortir de ce dilemme individuel ou collectif, c'est que de dire que la prévention ne peut être que à la fois individuelle et collective. Enfin, on peut réfléchir sur le fait que la prévention va avoir pour objectif essentiellement de réduire le nombre de personnes malades, et que finalement, dans nos sociétés, les personnes malades, ça ne concerne qu'une toute petite partie de la population. La plupart des personnes dans la société ne sont pas malades. Ça veut dire que la prévention repose sur une notion de solidarité forte entre les bien portants et les malades. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle les malades? On s'intéresse à des choses comme le diabète ou l'hypertension artérielle, par exemple, ou l'obésité. À partir de quand on devient malade? C'est presque quelque chose d'arbitraire. On fixe à partir de quel niveau de tension artérielle lorsqu'on décide qu'il faut traiter cette hypertension artérielle pour prévenir la survenue de complications. C'est quelque chose de compliqué. Il existe un continuum entre l'état sain et l'état malade. On le sait bien, par exemple, en ce qui concerne les fonctions cérébrales. Au fur et à mesure que nous avançons à un âge, nous avons tous de plus en plus de difficultés à retenir certaines choses. Moi, je n'arrive plus à retenir aucun nom propre. Est-ce que ça veut dire que je suis entré dans un stade de dégénérescence cérébrale relativement avancé? Je ne sais pas, et je ne sais pas à quel moment je serai amené à avoir une diminution de mes capacités du fait de ce vieillissement qui est inéluctable. On peut en trouver d'autres exemples. Alors à partir de là, on peut se poser la question de savoir qui il faut prévenir, quand et à quel moment. Alors je voudrais maintenant, je vais entrer dans des choses un tout petit peu plus un peu plus sophistiquées, réfléchir avec vous sur qu'est-ce que c'est que cette prévention et à qui faut-il l'adresser. Alors, le grand paradoxe de la prévention, c'est que dans une population, quelle qu'elle soit, beaucoup de personnes doivent prendre des précautions pour prévenir la maladie, maladie qui va concerner peu de monde. La plupart des gens, si je regarde les maladies une par une, la plupart des gens ne vont pas avoir de maladie. y compris, je vous rassure tout de suite, pour l'exemple que j'ai pris sur le tabac et le cancer du poumon, la plupart des fumeurs ne vont pas avoir des cancers du poumon. La plupart des fumeurs ne vont pas avoir cancer du poumon. Donc, je peux prendre, j'ai mis ici l'exemple de la ceinture de sécurité, on le connaît tous. On porte tous une ceinture de sécurité, c'est maintenant devenu une norme sociale de porter une ceinture de sécurité. On pourrait dire qu'on s'embête tous, et on pourrait être plus grossier que ça, à porter une ceinture de sécurité, alors que la probabilité qu'on ait un accident et qu'on soit blessé dans un accident est heureusement très très faible par rapport au nombre de kilomètres parcourus. Malheureusement, voilà, ça arrive qu'on ait des accidents qui peuvent être dramatiques, qui peuvent être mortels, mais c'est quand même relativement rare. Bon, et donc on fait tous une action de prévention avec, on pourrait dire, une efficacité ou une efficience plutôt extrêmement limitée. Donc une mesure préventive, et ça c'est l'apport de Rose, qui est un épidémiologiste anglo-américain, une mesure préventive qui apporte des grands bénéfices à la collectivité, parce que s'il y avait plus de blessés, de morts par accident de la circulation, ben ça serait un énorme bénéfice pour la collectivité, un énorme bénéfice individuel pour les victimes et leurs familles, bien entendu, mais un très grand bénéfice pour la collectivité. Donc une mesure préventive qui apporte de très grands bénéfices à la collectivité en apporte plus à chaque individu, parce que le risque individuel est très faible, même si on est une personne qui a un risque très élevé. Donc voilà un paradoxe, c'est que finalement, si tout le monde applique des stratégies de prévention efficaces, ça ne va bénéficier qu'à un petit nombre. Alors je voudrais vous montrer ça sur un exemple un peu stupide qui relève de Popeye, vous savez, qui mangeait des épinards pour accroître sa force. Je prends l'exemple suivant. Supposons un pays de 60 millions d'habitants, la France par exemple, qui sont exposés à un risque d'anémie, c'est-à-dire de défaut de globules rouges dans le sang, du fait d'une carence en fer. Ils n'ont pas assez de fer. Et supposons que, c'est complètement fictif bien entendu, hein, que 10% de la population soit atteinte d'anémie, c'est-à-dire qu'il y a 6 millions de personnes qui manquent de globules rouges dans la population. Si on fait de la prévention, et la prévention c'est de manger des épinards comme Popeye, eh ben, ça diminue par deux le risque. Ça fait pas complètement disparaître le risque d'anémie, parce qu'il y a d'autres anémies qui sont pas liées à la carence en fer, mais ça diminue par deux. Alors, on lance une grande campagne de prévention, manger des épinards, manger des épinards, manger des épinards. Alors, tout le monde va pas manger des épinards, il y a toujours des gens qui sont réfractaires à tout, mais enfin, supposons que la majorité de la population mange des épinards, on divise le risque par deux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus 6 millions de personnes atteintes, mais il n'y a plus que 3 millions de personnes atteintes au lieu des 6. D'accord? Et ça veut dire que les 57 autres millions, si tout le monde a mangé des épinards, les 57 autres millions, ben ils ont mangé des épinards pour rien. Et moi, je déteste les épinards, donc c'est quand même un effort considérable de manger quelque chose qu'on n'aime pas. 95% de la population qui aura mangé des épinards aura mangé pour rien des épinards, au bénéfice quand même de 3 millions de personnes. C'est pas rien. Et puis ceux qui n'auront pas mangé des épinards, parce qu'il y en a toujours qui ne mangent pas des épinards, ben on peut calculer très facilement, vous pouvez faire le calcul, que 90% d'entre eux restent indemnes de maladie quand même. Donc voilà, ils ont eu raison, ils ne se sont pas tapés des épinards qu'ils n'aiment pas forcément, et de toute façon, dans 9 cas sur 10, ils ne sont toujours pas malades. Donc on voit bien que le bénéfice d'une stratégie de prévention population générale, concernant l'ensemble de la population, c'est extrêmement peu rentable au niveau individuel, en tout cas, parce que ça demande des efforts individuels avec un bénéfice peu important. Mais on peut pas échapper ce risque, d'autant plus que aujourd'hui on a vaincu beaucoup de grands fléaux. On parle plus de la peste, on parle plus de la tuberculose, on parle même presque plus de l'infection à VIH. On s'intéresse à des risques qui sont de plus en plus faibles, de survenue de maladies cardiovasculaires, de diabète, de maladies métaboliques ou de dégénérescence cérébrale, qui sont quand même des risques extrêmement faibles, qui le plus souvent sont dû à, pas à un facteur, mais à plusieurs facteurs. C'est à la fois l'âge, l'environnement, les maladies préexistantes, la génétique. Et le bénéfice des stratégies de prévention est lui-même extrêmement faible. Alors si j'arrêtais là, je vous dirais, bah, écoutez, voilà, je vous ai démontré que prévenir, c'est pas rentable à l'échelon individuel, en tout cas il faut pas le faire. Alors c'est pas si évident que ça, et je vais essayer de vous le montrer. Alors qu'est-ce qu'on fait dans les pays comme le nôtre? D'abord, quels sont les efforts consacrés à la prévention? Je vous ai mis ici quelques chiffres pour vous donner une idée de l'aspect financier et économique au sujet de ce dont je parle. Ce qu'on appelle les agrégats des comptes de la santé en France. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Commençons par regarder ce qui est encadré, c'est le plus simple. Les dépenses totales de santé, c'est ce qu'on appelle la dépense courante de santé. Ça représente, dans notre pays, en 2011, ça représentait 240 milliards d'euros pour l'année. 240 millions d'euros, c'est 12% du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut de la France, c'est à peu près 2 milliards d'euros. Sur ces... Alors, tout n'est pas de la médecine. La médecine, c'est ce qu'on appelle la consommation de soins et biens médicaux, qui est juste au-dessus. C'est 180 milliards d'euros, parce qu'il y a des actions qui ont un effet sur la santé et qui ne sont pas directement sur la santé. Par exemple, je parlais de ceintures de sécurité, ben, ça a des effets sur la santé, mais c'est pas compté dans le budget de la santé. Les dépenses de prévention, regardons tout en bas, ça représente à peu près 15 milliards, c'est-à-dire 6% de cette dépense courante de santé, c'est-à-dire de ces 240 milliards. Tout ça est stable depuis une dizaine d'années. Donc, on dépense à l'heure actuelle 6% du budget de la santé, qui est absolument gigantesque, comme vous le savez, c'est l'un des plus importants postes budgétaires de la France, avec l'éducation nationale. Et encore la défense, je crois. Donc on dépense 6% pour la prévention et donc 95% pour le soin. Alors est-ce que c'est beaucoup ou pas? Je sais pas. C'est en tout cas des sommes considérables. C'est 15 milliards d'euros. Pour vous donner des ordres de grandeur, mais vous savez comme moi, vous lisez le journal comme moi, que le gouvernement, par exemple, cette année, en 2013, fait un effort d'augmentation des impôts sur les particuliers, par exemple, qui représente 10 milliards d'euros. Donc, vous voyez, la prévention, c'est plus que l'effort d'augmentation des impôts du gouvernement sur les particuliers pour cette année. Donc, c'est des sommes absolument énormes. Donc, on fait pas assez, peut-être pas assez pour la prévention par rapport à aux pays voisins. On fait pas assez. Par exemple, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne consacrent 10% du budget de la santé à la prévention. Nous ne consacrons que 6%. Mais même si c'est pas assez par rapport à nos voisins, c'est quand même beaucoup. Voilà. Donc on dépense déjà beaucoup. On pourrait faire plus. Et on pourrait vraisemblablement arriver à 10%. Et je me bats personnellement pour qu'on augmente de 1% par an le budget de la santé consacré à la prévention, en diminuant de 1% par an ce qui est consacré aux soins. Et ça serait faisable de façon relativement facile. Mais enfin, il y aurait des gens qui seraient pas contents. C'est ceux à qui on enlèverait de l'argent, en particulier peut-être les médicaments. Alors, la prévention, on peut penser que c'est moins coûteux que le soin, c'est moins coûteux que les médicaments. Faire de l'information, de l'éducation, c'est quelque chose qui est peut-être moins coûteux. Mais c'est pas forcément vrai, parce que la façon dont peut marcher la prévention est très hétérogène. Ça dépend de notre niveau social, de notre âge. Par exemple, si on prend un exemple qui est la vaccination antigrippale. Si on décide de vacciner toute la population, ça coûte cher. Un vaccin antigrippal, c'est pas très cher. C'est entre 6 et 7 euros, hein, si je me trompe pas. Il y a peut-être des personnes dans la salle qui savent mieux que moi. Je crois que c'est 6,50 € un vaccin antigrippal. Mais voilà, si on l'applique à 60 millions de personnes, ça fait tout de suite plusieurs centaines de millions d'euros. Ça doit faire à peu près 400 millions d'euros. Donc c'est une somme absolument considérable. Est-ce qu'on a intérêt de vacciner tout le monde? on peut montrer très facilement que non. Vacciner les personnes âgées au-delà de 60 ans ou 65 ans, comme c'est pris en charge par la Sécu d'ailleurs, hein, les vaccins, je crois que c'est au-delà de 60 ans, c'est entièrement, 65 ans, c'est entièrement remboursé. On économise beaucoup d'argent parce que ce qui est embêtant dans la grippe, c'est pas tellement la grippe, c'est les complications, en particulier les complications pulmonaires. Et elles sont d'autant plus fréquentes qu'on est âgé. Donc, prendre en charge et vacciner toute la population au-delà de 65 ans est rentable d'un point de vue économique. Avant 65 ans, c'est finalement assez peu rentable d'un point de vue économique. Le seul ennui de la grippe, c'est éventuellement une absence au travail qu'on a du mal à chiffrer. La grippe est plus ou moins déclarée, plus ou moins source d'absentéisme. Voilà, est-ce que c'est moins coûteux la prévention que le soin, en l'occurrence pour la grippe, toutes les analyses économiques montrent que non, la prévention n'est pas moins coûteuse que le soin. D'autre part, la prévention permet d'économiser de l'argent à moyen ou à long terme pour des pathologies dont on n'est pas sûr qu'elles vont survenir, et il est très difficile de faire un investissement sur le long terme alors qu'on a des difficultés immédiates. D'autre part, les modifications de comportement en faveur de la prévention c'est une question qui dépend d'une meilleure information, d'une meilleure éducation, mais ça dépend aussi beaucoup de la propre représentation qu'ont les personnes de leur propre santé, de leur milieu social, de leur milieu culturel, de leurs conditions économiques, du fait qu'ils aient du travail ou pas. Donc c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement compliqué, et il n'est pas évident donc que développer des politiques de prévention soit facile et soit rentable. Alors, pour essayer d'aller plus loin, et je vais passer le temps qui me reste à essayer de décortiquer ça encore un peu plus, on peut finalement imaginer, compte tenu de ce que je vous ai dit, qu'il y a deux stratégies possibles pour la prévention. Une stratégie, c'est celle qui est en bas de cette diapositive, c'est ce qu'on appelle la stratégie populationnelle, c'est-à-dire appliquer les stratégies de prévention à l'ensemble de la population. Tout le monde mange des épinards, point barre, et on regarde ce que ça fait. Ça suppose que le risque est distribué dans l'ensemble de la population et qu'on ne va pas soumettre à des stratégies de prévention des personnes de la population qui n'ont aucun risque. Et ça a un avantage, c'est de renforcer la solidarité entre les membres de la communauté ou du pays. Puis la deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie du haut risque. C'est-à-dire, je ne vais faire manger des épinards qu'à des personnes dont je peux savoir par ailleurs qu'elles ont un risque important d'anémie. Donc, elles ont déjà une anémie ou elles ont des caractéristiques constitutives qui font qu'elles ont un risque important d'anémie. Donc, elles ont un risque plus élevé que l'ensemble de la population de développer la maladie. Elles sont plus susceptibles. Alors, à ce moment-là, ça suppose donc d'isoler une petite partie ou une partie de la population qui est la population qui présente un risque élevé et de considérer le reste de la population comme étant à risque normal ou à risque négligeable, au risque de se tromper d'ailleurs. Peut-être que je vais considérer que le risque de la population est à risque négligeable alors que c'est pas le cas. Alors je vais essayer de vous représenter ce que ça veut dire. Voilà une représentation de la stratégie à haut risque. Alors ici, vous avez un diagramme qui représente la distribution de la, je sais pas si vous voyez le petit point, la distribution de la tension artérielle dans la population. Ici donc vous avez un abscisse, la tension artérielle qui va de 80 à 200 ou de 8 à 20, puisque généralement on dit que quelqu'un a une tension artérielle de 15-10. Si une tension artérielle de 15, c'est ici par exemple, et ici vous avez le pourcentage de la population correspondant à chacun de ces chiffres de tension. Donc on a une distribution de la tension artérielle dans la population, qui est une distribution en cloche, qui est une distribution normale, qui est quelque chose d'extrêmement connu. Stratégie au risque de prévention, ça veut dire que je vais traiter les gens qui sont ici, c'est-à-dire que je vais essayer de transformer cette distribution qui est comme ça en distribution qui s'arrête ici, que plus personne n'ait par exemple une maximale de tension artérielle supérieure à 16,5 par des traitements. Donc tous les gens qui sont ici, qui sont dans cette partie petite partie du diagramme ici, je vais les traiter de ma façon à ramener leur tension artérielle normale. Et puis les autres, parce que je dis c'est eux qui concentrent le plus grand risque de survenue de complications du fait de la tension artérielle, donc de maladies cardiovasculaires, d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral. Et puis les autres, je vais pas m'en occuper parce que je vais dire bah ils ont un risque qui est très très faible et c'est pas la peine de les traiter. Donc on va faire de la prévention secondaire uniquement parmi les personnes qui sont à très haut risque. Ça c'est la stratégie du haut risque. D'accord, c'est clair. J'ai une autre stratégie qui est la stratégie populationnelle. Donc, je vous ai dit traiter l'ensemble de la population. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, j'ai la distribution de la tension artérielle. Je m'excuse, c'est en anglais parce que c'est emprunté à Rose justement dont je vous ai parlé. Distribution de la tension artérielle avant toute intervention. Voilà, c'est la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vais traiter l'ensemble de la population de façon à décaler la courbe de distribution des tensions artérielles de la population vers des chiffres plus bas. Donc je vais, tout le monde va recevoir des conseils hygiéno-diététiques et des traitements pour ramener la tension artérielle vers des niveaux inférieurs en espérant baisser le risque de survenue de complications pour l'ensemble de la population. Donc ça c'est la stratégie populationnelle et on voit bien qu'on peut appliquer ces deux stratégies. Alors on va essayer de voir, je vais essayer de voir quels sont les avantages et inconvénients, avantages en plus et inconvénients en moins de chacune de ces stratégies. Donc la stratégie du haut risque, donc vous vous souvenez, c'est transformer la distribution de la population en coupant ce qui est à droite, ce qui dépasse vers les personnes les plus à risque. En avantage, il y a quoi? C'est une intervention qui est très bien adaptée aux individus à risque. Parce que il est très facile de leur expliquer qu'ils ont une tension artérielle très élevée et que s'ils font rien, un jour ou l'autre, ils ont vraiment un risque important d'avoir une complication cardiovasculaire. Il est très facile donc de les motiver. Il est très facile de motiver les médecins, puisqu'on dit aux médecins, bah écoutez, vous allez traiter et donner des conseils de bien manger, de bien boire et de bien se bouger et de bien prendre son traitement antihypertenseur à des gens qui ont effectivement un risque très très élevé. Ça, les médecins, ils ont été formés à ça, ils le font très très bien. On utilise les ressources de façon très coût efficace, comme on dit, de façon très efficace, puisque on donne les médicaments à des gens dont le risque est vraiment très élevé, et donc ce qu'on appelle le ratio ou le rapport bénéfice-risque est extrêmement favorable. Alors maintenant, quelles sont les difficultés? Ben d'abord, il faut dépister les gens qui ont une tension artérielle élevée. Certains d'entre vous qui sont peut-être dans des professions médicales savent que prendre la tension artérielle, c'est à la fois la chose la plus facile et la plus difficile, parce que c'est facile, mettre un brassard ou avoir un appareil automatique, mais il faut que la personne soit au repos, il faut qu'on fasse plusieurs mesures, il faut qu'on répète dans le temps, parce que ça varie beaucoup, la tension artérielle. Dès qu'on s'énerve, on a la tension qui monte, hein, c'est une expression populaire qu'on emploie tous, quand on est dans des conditions difficiles, donc il faut quand même se donner les moyens de que la tension soit bien mesurée. C'est une stratégie palliative, temporaire et paradicale, parce que si quelqu'un fait ce qu'il faut pour baisser sa tension artérielle et puis il arrête de prendre ses médicaments, immédiatement la tension artérielle va remonter. Ça a des effets limités sur les individus, parce qu'on ne va pas éliminer complètement le risque de complications, et des effets limités sur la population, parce que il y a beaucoup de gens qui sont à faible risque, mais leur risque n'est pas nul. Donc, on va diminuer quand même le risque d'une petite partie de la population. Et puis, ça implique des modifications de comportement. Par exemple, manger sans sel, si on veut baisser la tension artérielle. Alors, manger sans sel, vous savez comme moi que d'une part, c'est pas bon, d'autre part, c'est difficile. Du sel, il y en a pas tout. Il y en a partout. Vous pouvez pas aller au supermarché acheter une barquette de carottes râpées parce qu'il y a plein de sel. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez pas manger. Et puis, trouver du pain sans sel, c'est compliqué, c'est pas bon. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, cette stratégie à haut risque, du haut risque, il y a de la prévention dans les groupes à haut risque. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. La stratégie population générale, donc vous vous souvenez, ça consiste à déplacer l'ensemble de la courbe vers la gauche, vers un risque moins important. Alors, ça peut être radical, parce que si on arrive à déplacer l'ensemble de la courbe vers la gauche, il n'y aura plus personne qui aura une tension artérielle supérieure à certaines valeurs. On peut à la limite supprimer complètement l'exposition si on arrive à faire que, par exemple, dans l'environnement, il n'y ait plus du tout de polluants atmosphériques. On a gagné. Le problème n'existe plus. L'effet donc peut être quantitativement très important. Par exemple, on a au cours des 20 dernières années développé en France et dans l'ensemble des pays développés une stratégie de prévention du mongolisme, de la trisomie 21, qui est extrêmement efficace, comme vous le savez, pour toutes les femmes enceintes, absolument toutes les femmes enceintes en France. On fait un dépistage du mongolisme, de la trisomie 21, qui est basé sur l'âge, puis sur des dosages, sur un examen échographique, et puis éventuellement sur la réalisation de ce qu'on appelle une amniosynthèse, c'est-à-dire une analyse génétique du liquide amniotique. Et quantitativement, c'est très très impressionnant, parce que le nombre d'enfants mongoliens a diminué de 90%. Il y a ensuite un choix des femmes et des familles, bien entendu, lorsqu'un diagnostic de mongolisme est fait, de savoir si ces personnes souhaitent conserver cette grossesse ou pas. Donc, in fine, c'est l'individu qui choisit. Mais collectivement, c'est très, très, très impressionnant la diminution du mongolisme. Et d'ailleurs, vous savez comme moi quand même que on voit de moins en moins d'enfants mongoliens. D'autre part, ces modifications de comportement sont possibles à l'échelon collectif et peuvent avoir des effets importants. Je parlais tout à l'heure de la ceinture de sécurité, par exemple. Je suppose que personne dans cette salle ne conduit ou ne circule en voiture, en tout cas aux places avant. On devrait aussi le faire aux places arrière, mais en France, on le fait pas, sans ceinture de sécurité. Donc, il y a une nouvelle norme sociale qui s'est installée, et on sait, si vous regardez les chiffres de blessés ou de morts par accident de la route, que c'est un des éléments qui contribue, pas le seul, mais un des éléments qui contribue grandement à l'amélioration de la situation. Donc voilà, on a des normes sociales, par exemple, nouvelles qui sont créées par les préventions et qui sont très impressionnantes. C'est le fait de se laver les mains. Quand il y a eu la menace d'épidémie de grippe H1N1 il y a quelques années, il y a 4 ans maintenant, on s'est tous désinfecté les mains. Hein, vous vous souvenez, il y avait partout des petits distributeurs de produits désinfectants, et puis tout le monde a pris l'habitude de se laver les mains. Et je peux vous dire que même d'un point de vue microbiologique, ça se vérifie maintenant. Les Français se lavent les mains comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Et se laver les mains, on a tous appris quand même depuis qu'on est tout petit que ça n'a que des effets, que des effets positifs sur l'hygiène générale. Bon, mais cette population, cette prévention en population générale a aussi des inconvénients. Il y a un faible bénéfice au niveau individuel, je vous l'ai dit. Les motivations peuvent être faibles pour les sujets qui sont pas susceptibles. Les praticiens, alors là, ils sont complètement démotivés. Enfin, c'est plus leur métier. Mais je vous disais, il faut démédicaliser la prévention. Il faut la laisser à des gens qui ne sont pas des professionnels de santé. Le ratio bénéfice-risque est peu favorable. Ça coûte très cher à faire que tout le monde ait porté une ceinture de sécurité. Ça coûte très très cher. Ça rapporte de l'argent aux fabricants de ceintures de sécurité, mais enfin, ça coûte extrêmement cher, et le maintenir quand même coûte très très cher, et ça risque d'accroître les inégalités, parce que on est tous différents, et il y a peut-être des gens qui sont moins enclins à adopter des stratégies de prévention. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combiner les deux approches. On peut montrer, je vais pas le faire parce que ça serait un peu trop long, que l'approche en population générale est quand même, chaque fois qu'on le peut, l'approche qui à la fois est la plus rentable, entre guillemets, et qui est d'autre part la plus susceptible de faire disparaître complètement les risques pour la santé dans la population. Donc c'est celle qu'il faut favoriser. Mais ça marche difficilement. Ça marche difficilement pour la raison suivante. En haut à gauche, là, je vous ai représenté le diagramme de tout à l'heure de la stratégie en population générale, déplacer la courbe, la distribution vers la gauche. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qu'on observe? Si on fait une stratégie de prévention de l'hypertension artérielle en population générale, on part de la courbe de départ. Alors moi, je vois pas du... Voilà. Elle est là, la courbe de départ qui est ici. Vous vous souvenez? Et en fait, au lieu de la déplacer complètement vers la gauche, comme on fait ici, bien souvent, ce qu'on observe, c'est ça. C'est une nouvelle courbe plus aplatie. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de personnes, celles qui sont dans cet ovale ici, dont la tension artérielle est effectivement baissée. Mais il y a un certain nombre de personnes qui concentrent les risques et qui n'ont pas bougé. Et dont la tension artérielle ne bouge pas. Et si leur tension artérielle ne bouge pas, c'est principalement parce que ces personnes... pour des raisons multiples que je vais essayer de développer très rapidement, n'appliquent pas les mesures de prévention. Donc, nous sommes inégaux devant ces stratégies de prévention. Certains vont les appliquer, mais d'autres ne vont pas les appliquer. Et à ce moment-là, il reste un niveau important de risque pour une fraction de la population, qui est la fraction la plus difficile, c'est celle qui est inaccessible ou peu accessible aux stratégies de prévention. Pourquoi ces personnes sont peu accessibles aux stratégies de prévention? C'est parce que ces personnes sont dans des situations de vulnérabilité. De vulnérabilité, c'est-à-dire des personnes qui ont des caractéristiques particulières des déterminants de santé, ce qu'on appelle les indicateurs de risque, en particulier des caractéristiques sociales ou comportementales qui font qu'elles ont un risque plus important d'être exposées à certains facteurs de risque et qu'elles ont plus de difficultés pour entrer dans des stratégies de prévention. En clair, il y a des personnes dont les conditions à la fois médicales, biologiques, sociales, culturelles et économiques font que les stratégies de prévention les atteignent moins facilement. Et je veux vous administrer la preuve très facilement. Vous avez ici l'évolution de la consommation de tabac parmi les cadres, la courbe du bas, parmi les ouvriers, la courbe du milieu, et parmi les chômeurs, entre 2000 et 2008 en France. Et ce qu'on constate, c'est que sous l'effet de toutes les modifications, en particulier des campagnes anti-tabac, qui sont de la prévention en population générale, on a observé entre 2000 et 2003 une très forte diminution, à peu près de 10% de la consommation de tabac parmi les cadres. Puis après, c'est resté stable. Ça s'explique très très bien. Entre 2000 et 2003, c'est la période dans laquelle on a fait des campagnes qui étaient associées à des augmentations de prix de tabac importantes, très importantes. Puis ensuite, il y a eu des campagnes, toujours, mais des augmentations de prix de tabac moins importantes. Donc c'est resté stable, mais c'est pas remonté. Chez les professions intermédiaires, les ouvriers, ben, vous voyez, ils ont été assez peu sensibles, puis un peu plus là, mais enfin, puis après, c'est un peu remonté. Et puis chez les chômeurs, eh ben, ça a un peu diminué, puis ça a augmenté, et ça continue à augmenter. On est à l'heure actuelle à peu près à 50% de fumeurs parmi les chômeurs. C'est complètement paradoxal, puisque quand même le prix du tabac augmente, et que donc le prix relatif du tabac dans le budget est beaucoup plus important pour quelqu'un qui est au chômage que quelqu'un qui est en activité, puisque quand même en moyenne, et très largement, le revenu moyen des chômeurs est très largement inférieur au revenu des personnes en activité, en particulier des cadres. Mais on fait la démonstration, d'ailleurs, pas seulement l'hypothèse, que ces personnes qui sont dans des situations sociales très défavorables, de grande vulnérabilité, d'activité professionnelle, préservent certaines recherches de plaisir ou de satisfaction, et en particulier quand on est fumeur, ben, le fait de fumer est une source de satisfaction ou peut le devenir si on devient fumeur. Donc les stratégies de prévention en population générale sont à la fois quelque chose qui est l'idéal qui permettrait de soustraire les populations à des risques pour la santé, mais elle comporte un risque extrêmement important, c'est d'accroître les inégalités face à la santé dans une société dans laquelle il existe déjà de très grandes inégalités, inégalités sociales, et inégalités économiques, inégalités culturelles vis-à-vis de la santé. Et ça, c'est vraiment la principale difficulté de la population, de la prévention en population générale. Alors, quelles sont ces populations vulnérables? Je n'ai ici quelques exemples: les migrants, les minorités ethniques, les minorités sexuelles, les femmes dans certains contextes socio-culturels, des personnes de faible niveau éducatif ou de faible niveau économique. Et donc, il faut être extrêmement prudent. En pratique, donc, chaque fois que c'est possible, combiner l'approche populationnelle et une approche par population vulnérable. Sinon, favoriser les approches par prévention sur les populations à haut risque. Et en ce qui concerne les inégalités de santé, c'est ce qui est fait en Grande-Bretagne à l'heure actuelle. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop compliqué, mais on a tout le temps de discuter. Je serai très content de répondre à vos questions. Je vous remercie.
Voilà, le micro est à votre disposition.
Oui, je voudrais savoir quelles sont les approches de prévention qui existent, les plus importantes, les remettre en mémoire, et puis que vous nous citiez aussi celles qui sont parmi les plus controversées.
Bien, vaste programme. Alors, les approches de prévention... Les plus importantes, ben, c'est le développement de l'éducation pour la santé vis-à-vis des principaux risques. Alors, je vais vous paraître complètement ringard, je suis désolé, mais je l'assume complètement. Les plus grands risques pour la santé dans notre pays à l'heure actuelle, c'est ce que j'ai cité. Et pas que dans notre pays, c'est vrai à l'échelon mondial. C'est la consommation de tabac, numéro 1. 60 000 morts par an en France sont attribuables au tabac. La consommation d'alcool, numéro 2. 45 000 morts par an sont attribuables à l'alcool en France. Troisièmement, l'absence d'exercice physique ou d'activité physique et la mauvaise nutrition. Quatrièmement, ce qu'on appelle les comportements à risque, qui sont des comportements soit violents, soit de prise de risque dans les activités de la vie quotidienne, y compris des comportements à risque dans les activités professionnelles. Et puis cinquièmement, parce que quantitativement c'est un peu moins important, mais ça touche une tranche de la population qui est la population la plus active, c'est les risques professionnels, les risques liés à l'activité, aux activités professionnelles de toute nature, depuis les risques physiques pour les métiers à risque, les métiers du bâtiment par exemple, les chauffeurs, les risques chimiques pour les personnes qui sont dans l'industrie de la chimie, les risques biologiques ou microbiologiques pour toutes les personnes qui manipulent des produits vivants ou des produits susceptibles d'être à l'origine de problèmes microbiologiques. Voilà les risques les plus importants. Les domaines dans lesquels, excusez-moi, donc c'est les risques les plus importants, c'est les domaines dans lesquels l'activité de prévention est la plus importante. Quels sont les plus, vous avez dit les plus décriés
les
ou
les plus controversés?
Les plus controversés. Alors, le plus controversé, et je m'excuse, je vais sûrement choquer beaucoup de personnes dans la salle, c'est les dépistages, et en particulier les dépistages de cancer. L'un qui n'est pas controversé, mais pour lequel les recommandations ne sont absolument pas appliquées dans notre pays, et qui concerne les hommes, et beaucoup d'hommes dans la salle qui ont à peu près mon âge, c'est le dépistage du cancer de la prostate. On fait des dosages qui s'appellent les PSA, les prostatiques spécifiques antigènes, les PSA. Pour dépister le cancer de la prostate, il est montré que c'est complètement inefficace et que ça ne sert à rien. Le PSA est un dosage qui a été mis au point pour suivre l'évolution du cancer de la prostate et non pas pour dépister le cancer de la prostate. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé, vous pouvez aller sur le site de la Haute Autorité de Santé, qui est la haute autorité qui s'occupe des pratiques sanitaires et médicales, indiquent bien que le dosage des PSA ne peut pas être indiqué dans la prévention du cancer de la prostate, c'est quelque chose qui est largement réalisé. Les autres dépistages qui posent problème, c'est le dépistage du cancer colorectal, pour lequel on fait de grands efforts de développement à l'heure actuelle, mais pour lequel l'efficacité est toujours douteuse, et elle va s'améliorer dans quelques années, mais pour le moment les techniques dont on dispose ne sont pas suffisamment efficientes. Et puis la grande question, je m'excuse mesdames, parce que la plupart d'entre vous ont sûrement eu mammographies de dépistage, c'est la réelle efficacité du dépistage du cancer du sein par la mammographie, donc le dépistage organisé du cancer du sein, dont il a été démontré que il a un effet, mais il est très difficile de savoir si cet effet vient d'une simple avance au diagnostic par le dépistage en diagnostic et cancer très tôt, et donc la survie est plus longue que si on les avait diagnostiqués plus tard cliniquement. On dépiste des cancers dont on ne sait pas si tous auraient évolué vers un cancer qui aurait mis en péril la vie de la personne. Et puis enfin, ce dépistage systématique comporte la réalisation de radiographies systématiques, de mammographies systématiques, et on sait que les rayonnements ionisants répétés ont des inconvénients. Donc la question du dépistage du cancer du sein est très 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 controversée dans la littérature scientifique, et il n'est pas impossible par exemple que la Grande-Bretagne revienne sur les politiques de dépistage systématique et organisé du cancer du sein. Donc je ne veux pas vous décourager, à contre-courant de la stratégie nationale à laquelle je participe, mais j'y participe sans être complètement rationnellement convaincu que ce soit formidablement efficace, mais c'est un problème très très difficile. Et je peux vous dire sans trahir de secret que par exemple lors de la dernière journée nationale consacrée au dépistage du cancer du sein, j'ai eu l'occasion de préparer cette journée avec la ministre de la Santé, et la question s'est posée de savoir quel discours elle pouvait tenir, et finalement la décision a été prise de ne pas changer le discours officiel, mais si vous lisez 50 millions de consommateurs à propos du dépistage du cancer du sein, vous verrez que ça reste un sujet de débat important.
Bonsoir monsieur, merci pour votre intervention, mais pour le commun des mortels, si on n'est ni médecin, si on est seulement patient, vous avez mis en évidence le paradoxe entre les chômeurs et l'utilisation du tabac. Mais comment faire pour, sans tenir compte de ces inégalités sociales, comment faire pour choisir une prévention A, un médicament A, un médicament B, ouais. Qui ne dépend pas, qui dépend de deux industries pharmaceutiques différentes. Et comment faire ?
Bien, merci.
En gros, c'est peut-être trop vaste.
Non. Merci beaucoup. C'est formidable que vous posiez cette question. Je suis très content. Très content, parce que c'est tout un domaine que j'ai pas voulu aborder, parce que voilà, j'avais déjà beaucoup de choses à vous dire en une heure et il ne fallait pas en rajouter. Alors, c'est une vraie question. Il y a une méthodologie pour répondre à la question que vous posez. Ça s'appelle la méthodologie des essais comparatifs randomisés. Randomisé est une traduction de l'anglais randomize, mais ça vient du français aller à random. Dans le vieux français, il existait vous voyez ce que c'est qu'un chemin de randonnée. Vous avez un chemin de grande randonnée qui passe ici à Tence, je crois. J'ai regardé la carte. Aller à random, c'est vaticiner, c'est aller au hasard. Donc, essais comparatifs randomisés, c'est des essais comparatifs avec tirage au sort. Comment on fait ? Si je me pose la question de savoir, prenons l'exemple dont j'ai parlé, parce que c'est exactement l'objet du débat sur dépistage du cancer du sein et dépistage du cancer de la prostate. Je veux savoir si le dépistage du cancer du sein est efficace pour diminuer la mortalité par cancer du sein. Pour le savoir, il y a une méthode et une seule. C'est de trouver une population relativement homogène, mais enfin peu importe, une population. Je vous dis tout de suite, ces premiers essais, ils ont été faits dans deux pays, en Suède et au Canada. et de tirer au sort dans la population les personnes qui vont avoir un dépistage systématique du cancer du sein et des personnes qui n'auront pas un dépistage systématique du cancer du sein et qui auront éventuellement des mammographies s'il y a des signes cliniques, si la femme elle-même sent qu'elle a l'impression qu'elle a un nodule dans le sein ou si le médecin, en l'examinant, se pose des questions sur l'intégrité de son sein ou l'existence éventuelle d'un nodule, d'une tumeur. Et de regarder comment évoluent ces deux populations dans le temps et de calculer, année par année, le taux de mortalité par cancer du sein. Si on a tiré au sort, au sein d'une population, ça veut dire qu'on a constitué deux groupes qui sont aussi semblables que possible, puisqu'on a fait, par tirage au sort, on a déterminé, madame aura le traitement A, qui est un dépistage systématique, madame aura le traitement B, qui est l'absence de dépistage systématique. Et si on regarde l'évolution de la mortalité dans ces deux groupes, qui seront complètement semblables ou aussi semblables que possible parce que constitués par tirage au sort, on pourra avoir une réponse à la question. Alors comment on fait? C'est difficile parce que voilà, si on décide de prendre toute la France et de tirer au sort les femmes qui vont avoir un dépistage et d'autres qui ne vont pas avoir un dépistage, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a des femmes qui vont dire « Mais pourquoi moi on m'embête avec ce dépistage alors que ma copine elle l'a pas ?» Ou au contraire, elle va dire « Mais pourquoi moi j'ai pas droit à la radio alors que ma copine a droit à la radio ?» Donc, et comme les gens, heureusement nous sommes dans un pays de très grande liberté, si on lui propose pas, la dame qui veut un dépistage, elle ira se le faire, elle ira chez le médecin, chez le radiologue, et elle fera ce dépistage. Donc il est très difficile de constituer par tirage au sort deux populations strictement identiques. Alors je vais vous dire comment ça a été fait au Canada par exemple. Ils ont une structure fédérale par état et donc il y a eu deux états, l'Ontario dans lequel on a fait un dépistage systématique et le Saskatchewan qui est plus loin et qui est disjoint dans lequel on n'a pas fait de dépistage systématique et en s'adressant aux populations de même âge, de même origine ethnique, voilà, on a eu deux populations strictement comparables. Donc on fait comme ça. Donc pour le cancer du sein, et c'est ce qui introduit le doute, c'est que sur la mortalité, on a une différence. Il y a une diminution de la mortalité par cancer du sein. Sur la mortalité, on n'a pas de différence. On a une différence sur le délai de survie. Et on imagine que cette amélioration du délai de survie chez les femmes, plus long délai de survie à partir du diagnostic chez les femmes chez qui on a fait un dépistage systématique, est expliquée par le fait qu'on a fait le diagnostic plus tôt. Mais ça ne change pas le taux de mortalité. Par contre, pour la prostate dont je vous parlais, on a fait ces essais randomisés dans 10 pays. Et sur les 10 pays, dans 6 pays, il n'y avait strictement aucune différence, ni de délai de survie, ni de mortalité par cancer de la prostate. Et dans les autres 4 pays où il y avait des différences, c'était des situations tout à fait particulières où on explique ces différences autrement que par le dépistage. Donc la méthode, c'est l'essai comparatif avec tirage au sort. C'est aussi vrai pour des médicaments. Médicaments A, médicaments B, on les compare par essai comparatif randomisé. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et cette méthodologie est obligatoire quand on met un nouveau médicament sur le marché maintenant. Il faut avoir montré par des essais comparatifs randomisés que le nouveau médicament est meilleur que tous les médicaments qui existaient pour l'infection en question.
Alors, les organismes de la santé préconisent 5 fruits ou légumes par jour. Et quand on sait que les fruits ainsi que le vignoble sont les produits qui contiennent le plus de pesticides, je voudrais savoir votre avis.
Vous avez dit les fruits ainsi que...
Que le vignoble.
Ah oui, pardon. Oui, c'est aussi des fruits, le raisin.
Oui, c'est le raisin, oui.
Bien. Alors, effectivement, c'est une histoire un peu douloureuse pour les épidémiologistes. On préconise 5 fruits et légumes par jour. Ça a été inventé par des communicants à partir de données épidémiologiques qui sont les suivantes. Et ça va nous renvoyer à la question des essais randomisés. Les données épidémiologiques sont que on constate à l'échelon mondial, c'est des études, d'énormes études qui sont conduites à l'échelle de continents. Par exemple, la principale étude qui se consacre à ça s'appelle l'étude EPIC. C'est une étude qui est menée dans 5 pays européens. Et dans chacun des pays européens, il y a 100 000 personnes qui sont suivies. En France, il y a 100 000 femmes qui sont suivies dans une étude qui s'appelle le 3N pour ça. Et on constate dans ces très vastes études où on interroge les gens, on les suit pendant très très longtemps, et on les interroge sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils boivent, etc. Et on regarde l'évolution de leur survenue de maladie, de leur pathologie et les causes de décès. Et on a constaté dans ces études que plus les gens consommaient de fruits et de légumes, et plus faible était l'incidence de certains cancers, et plus faible était l'incidence d'infarctus du myocarde, en particulier d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral. Et donc il y a une corrélation statistique entre la consommation de fruits et de légumes et la santé, disons, enfin le risque de survenue de cancer et de maladies cardiovasculaires. Et à partir de là, on a essayé de regarder quelles étaient les doses de fruits et de légumes à partir duquel on avait des diminutions importantes, et on a construit à partir de là le truc des 5 fruits et légumes. Ce qui est évident, c'est que les personnes qui mangent plus que 5 fruits et légumes et celles qui mangent moins de 5 fruits et légumes ont beaucoup de différences. Ils vivent pas sous les mêmes latitudes, ils ont pas par exemple les mêmes capacités économiques d'acheter des fruits et légumes. Mais ils n'ont pas les mêmes modes de vie, des modes de vie urbains ou des modes de vie ruraux, donc il y a énormément, énormément de différences. Et quand on s'est lancé dans des études qu'on appelle des études d'intervention, c'est-à-dire avoir des stratégies de communication, manger 5 fruits et légumes, ou d'autres populations qui ont fait, on ne fait pas ça, on ne dit pas manger 5 fruits et légumes, et si on regarde l'incidence des maladies, en particulier sur le cancer, on s'est rendu compte que, et qu'on regarde non plus la mortalité par cancer, mais l'incidence de cancer, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire, quand on prend en compte des facteurs socio-économiques, en particulier, qui sont liés à toutes sortes de comportements, la répartition des risques est hétérogène dans la population. Et l'exposition à ce qu'on appelle les facteurs de risque, je vous répète, tu as toujours la même chose, je suis désolé, mais c'est la vérité. Tabac, alcool, comportement à risque, nutrition, exercice physique. Plus on est haut dans l'échelle sociale, hein, pour employer les classes favorisées, parce que c'est ça dont il s'agit, sont moins exposés à des facteurs de risque que... Je vais reprendre une diapo parce que j'ai une diapo là-dessus et je suis passé. Donc, si mon appareil ne s'est pas éteint, voilà. Je vais vous la projeter. Quels sont les facteurs d'inégalité sociale de santé ? Vous les avez ici. Niveau socio-économique et l'éducation. Les conditions de travail et l'exposition au risque professionnel est quelque chose de très très inégalitaire. Les disparités de mode de vie liées aux conditions économiques, liées à la prévention. Le recours différentiel à la prévention primaire, et c'est lié aux conditions d'éducation en particulier, et le recours au système de soins, puisque je n'ai pas du tout parlé de ça parce qu'on était dans la prévention, mais l'une des très fortes inégalités qu'on vit dans notre pays à l'heure actuelle, c'est qu'avec la montée de la crise, il y a une diminution du recours au système de soins ou de retard au système de recours au système de soins pour des raisons financières. Et voilà. Et l'histoire des 5 fruits et légumes, c'est aussi lié à ça. Et une fois qu'on prend tout ça en compte, il n'y a plus de différence entre les gens qui mangent plus de 5 fruits et légumes par jour et ceux qui en mangent moins. Alors maintenant, pour la dernière partie de votre question sur les pesticides, ça c'est encore plus difficile. Parce que oui, il y a des pesticides, et plus on mange de fruits et légumes, plus on a des chances de manger des pesticides. La question est de savoir à partir de quel niveau d'exposition les pesticides sont un problème pour la santé. Alors ça c'est compliqué parce qu'on ne peut plus parler de pesticides en général. Hein, mais il faut regarder produit par produit, parce que tous les produits, tous les pesticides, tous les produits chimiques, au sens large, n'ont pas tous le même effet, ne comportent pas tous les mêmes risques. Alors là, je suis pour le moment à peu près incapable de répondre à votre question de façon détaillée. Ce que je peux vous dire, et je vais sûrement vous choquer beaucoup, c'est que pour le moment, toutes les études qui ont été faites en comparant des personnes qui mangent organique, comme disent les Américains, c'est-à-dire bio, et les personnes qui ne mangent pas bio, il y a strictement, une fois qu'on ajuste, qu'on tient compte du niveau économique et culturel, il ne reste plus aucune différence sur la santé. Mais c'est très compliqué parce que les personnes qui mangent bio sont forcément... Il n'y a pas que ça qui les différencie des autres. Il y a plein de choses qui les différencient des autres. Et prendre tout ça en compte est extrêmement, extrêmement difficile. Donc pour le moment, on ne sait pas. Non, vous ne le croyez pas ? Non, non, mais vous avez le droit. Vous avez le droit. Moi, je ne fais que vous rapporter des faits scientifiques, hein, c'est tout. Après, qu'il ne... Ah ben pour le goût, je ne vous parle pas du goût, là. Ah ben c'est important le goût, vous avez raison. Vous avez raison. Moi, je préfère manger de la bonne bouffe que de la mauvaise bouffe, bien sûr, je suis d'accord avec vous.
J'ai quand même été sidérée par voir le chiffre des dépenses médicales en France, 2700 et quelques euros. Milliards. Non, par habitant.
Oui, par habitant, oui.
Est-ce que c'est... Je ne sais pas, mais est-ce que dans un pays comme les Pays-Bas ou les pays du Nord ont des chiffres aussi importants ?
Alors,
je pense de l'Europe du Nord.
Oui.
Parce que je vais vous dire, moi je viens des pays du Nord.
Ouais.
Et quand je suis venue m'installer en France, j'étais sidérée de voir le nombre de médicaments qu'on me donnait pour rien du tout, quoi. Ou pour pas grand-chose.
Tout à fait raison.
Je ne sais pas si c'est la formation des médecins qui fait ça, mais je me souviens... Et j'habitais à ce moment-là dans la Haute-Loire. Je suis sortie de la pharmacie avec un sachet, comme si je sortais de, pas dire de Carrefour Market. Et c'était la première fois de ma vie que ça me...
Publicité.
Non, pas du tout. Mais par exemple, moi, je vois qu'aux Pays-Bas, entre autres, on a beaucoup de prescriptions magistrales qu'on n'a plus ici. Donc, je ne sais pas.
Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, si on reste au niveau macroscopique, en France, les dépenses totales de santé, ça représente 12% de la richesse nationale. On est le deuxième pays du monde. Le premier pays du monde, c'est les États-Unis, 15%. Ils sont à 15%. Nous, on est à 12%. À peu près à égalité avec la Suisse. Juste devant l'Allemagne. Mais, par exemple, alors les Pays-Bas, j'ai pas le chiffre en tête. La Suède, sont à 8% à l'heure actuelle. Donc ça fait une énorme différence, hein, de 8% à 12%. Ça fait 50% en plus chez nous par rapport à la Suède. Voilà, on a un système de santé très consommateur d'argent. Et en particulier, vous pointez tout à fait, madame, l'un des postes les plus... qui nous différencie le plus des pays voisins, c'est la consommation de médicaments. Parce que... Alors, il faut voir que dans les dépenses de santé, quand même, ce qui coûte cher, comme dans toute chose, c'est les salaires. Les salaires représentent 70% de la dépense de santé. Hein, les salaires représentent 70% de la dépense de santé. Mais au niveau des salaires, du coût investi dans les salaires dans les professions de santé, toutes professions de santé mélangées, c'est à peu près la même chose dans tous les pays. Le facteur de différenciation, c'est les médicaments. Alors, pour la raison... culturel compliqué, quoi. Parce que on n'est pas la France, et c'est intéressant si vous venez des Pays-Bas, la France est un pays qui est juste au milieu de l'Europe, si on regarde au point de vue latitude. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant qu'on soit au même niveau que la Suisse, parce que la ligne de différenciation Europe du Nord, Europe du Sud se fait beaucoup à peu près à ce niveau-là, au niveau du 45e parallèle, c'est-à-dire à peu près au niveau de la Suisse. Sur plein de choses, sur les comportements. Hein. Alors, les pays du Nord sont dans des stratégies très... pragmatique et rationnel. Les pays du Sud sont plus dans des pratiques plus imaginatives et plus irrationnelles. Mais en France, on a des comportements de consommation qui sont proches de ceux du pays du Sud, mais avec une richesse qui est plus proche de celle des pays du Nord. Bien qu'on ne soit pas très riche, on est quand même la cinquième puissance économique du monde. Hein. Donc on est quand même, la France est un pays très très riche, la France est une grande puissance malgré tous les problèmes qu'on peut avoir depuis quelques années. Voilà. Alors ce qui fait que, et je m'excuse, je vais vous dire les choses telles que je les analyse, et je peux apporter des chiffres à l'appui de ça quand même, c'est que compte tenu de ces modes de comportement collectif, du très fort développement des professions de santé en France, où on est un des pays du monde où la densité de professions de santé est la plus élevée. la France est devenue une terre d'élection pour les industriels de la santé, en particulier les industriels du médicament. Et c'est pas par hasard si c'est en France, essentiellement, un peu en Grande-Bretagne, mais moins qu'en France, que sortent des problèmes tels que le médiateur, tels que la contestation des vaccins ou la surutilisation de certains médicaments, les prothèses PIPS et des choses comme ça. C'est quand même pas par hasard qu'on concentre beaucoup de ces problèmes, c'est-à-dire qu'on a à la fois la richesse disponible, des comportements qui sont beaucoup moins... j'hésite un peu à vous dire ce que je vais vous dire, parce que je voudrais pas vous choquer, surtout dans cette région où c'est une région ancienne où il y a un poids important des religions, en particulier des deux tendances protestantes et catholiques. Et les pays du Nord sont dans un... comment ? Oui, les pays du Nord sont protestants et la France est un pays qui est majoritairement catholique. Voilà. Et c'est aussi un des éléments qui fait la différence dans les modes de consommation, hein, qui sont liés au tout le système éducatif, nos normes sociales. Enfin, je ne veux pas me lancer dans la sociologie de bas étage, parce que là, pour le coup, moi, je ne suis pas sociologue. Mais ce que je sais, en tout cas, par rapport aux industriels du médicament, c'est que on est une terre d'élection pour les industriels de la santé en général et les industriels du médicament en particulier. Donc, puisque vous m'en donnez l'occasion, je vais aller jusqu'au bout sur la prévention. Quand je vous ai dit on pourrait augmenter la part du budget consacré à la prévention de 1% par an, c'est une proposition que je porte vraiment très très fort depuis quelques années, sans dépenser plus pour la santé, bien entendu, parce qu'on dépense déjà énormément, mais en économisant de l'argent sur les médicaments et en gagnant 1%, les 1% par an dont on a besoin pour la prévention sur le médicament, enfin avec deux méthodes. Il y a deux méthodes pour dépenser moins d'argent, c'est vendre moins ou vendre moins cher. Et on peut essayer de faire les deux, c'est-à-dire... Alors, on est en train de faire ce progrès quand même en France où le recours aux médicaments génériques se développe maintenant de façon tout à fait correcte, mais ça vous a pas échappé, par exemple, que il y a encore des regroupements de médecins qui disent que les médicaments génériques n'ont pas les mêmes effets que les médicaments sous label des labos pharmaceutiques. Et voilà, Patrick a rappelé tout à l'heure que je suis membre de l'Académie de médecine, mais je m'énerve très violemment contre la prise d'opposition de l'Académie de médecine, disant que les médicaments génériques étaient moins efficaces que les médicaments des labos. Et puis, la deuxième chose, c'est en prescrivant moins, effectivement, et les médecins français ont... Mais les médecins français, ils répondent à la demande, à la fois qui est au-dessus d'eux, c'est-à-dire des labos, et la demande des clients, puisque les patients ont l'habitude de sortir avec, comme vous dites, un panier de la ménagère, ou en tout cas un sac plastique bien rempli de médicaments. Avec des mesures, je vous dirais que moi, j'ai jamais compris. Par exemple, quand on va à la pharmacie, on donne sa carte vitale, et puis on vous dit vous ne devez rien, ou vous devez 2 euros ou 60 centimes d'euros, et on ne sait jamais combien ça coûte tout ce qu'on achète. Alors faites l'expérience, quand vous irez à la pharmacie, demandez au pharmacien ou la pharmacienne de bien vouloir vous dire combien ça a coûté ce que vous avez acheté, et ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Je veux dire, quand on va à la pharmacie, qu'on sort avec un sac comme ça, on en a facilement pour 100 ou 120 ou 130 euros. Et on ne le sait pas. Il y a un réel problème, là, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais, ou nécessité faisant loi, à mon avis, ça va changer rapidement. Parce qu'il faut faire des économies quelque part, quoi. Et c'est en gros les médicaments. Oui, mais il faut le faire, il faut le regarder, il faut faire l'addition de tout. Vous le faites ? Moi, je ne le fais pas.
Une dernière question peut-être avant de passer dans la salle d'à côté pour prendre un dernier verre.
Bon, mais merci pour votre attention.